Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est dirigée ce soir par Charles Demeyer et préenregistrée grâce aux bons soins de Benoît. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une historienne que nous avons régulièrement eue dans ce Libre Journal des Débats, en la personne de Florence de Beaudus. Florence de Beaudus, bonsoir.
Bonsoir Charles de Meyer.
Un grand merci de revenir dans cette émission. Vous venez pour Guillaume Brune, Un destin tragique aux éditions Memoring dans la collection Figures. Félicitations pour ce nouvel ouvrage. Et première question, tout go, Florence de Beaudus, comment est né votre intérêt pour Guillaume Brune?
Ah voilà. Pourquoi écrit-on sur tel ou tel personnage? Bon, vous avez compris depuis le temps que je viens à Radio Courtoisie que la période de l'Empire m'intéresse particulièrement parce que c'est une histoire de famille, parce que nous avons beaucoup d'archives et de documents familiaux qui m'ont fait m'intéresser beaucoup à cette période, et puis aussi parce que c'est une période de rupture des personnages, hommes et femmes, qui devaient une certaine vie, ont vu leur destin complètement modifié, complètement troublé par l'arrivée de ce météore que fut l'empereur Napoléon. Alors pourquoi écrit-on sur tel ou tel personnage? Quelquefois parce qu'on trouve des archives inédites, parce que ce personnage est méconnu, ou parce que c'est une commande d'un éditeur. En l'occurrence, ça a été le point de départ pour moi. L'éditeur des éditions Memoring m'a demandé d'écrire un roman, non pas du tout un roman, un récit historique, un livre d'histoire sur le maréchal Guillaume Brune. Et je me suis rendu compte que ce maréchal était absolument inconnu du grand public et même de ceux qui se prétendent familiers de l'histoire de Napoléon. Bon, bien sûr, il a un grand boulevard à Paris, il a une statue sur la place principale de sa ville de naissance, Brive, mais personne n'est capable de dire ce qu'il a fait, quelle guerre il a gagnée, pourquoi il a été nommé maréchal. Et voilà ce qui m'a beaucoup intéressée. J'ai été extrêmement intriguée. Pourquoi fait-il partie de ces 26 maréchaux? Et qu'est-ce qui fait que personne ne sait qui c'est?
Florence de Beaudus, comment avez-vous pu travailler? Parce qu'on pourrait s'imaginer, par exemple, que sa méconnaissance relative est liée à un manque d'archives. Est-ce que c'était difficile de pouvoir dépouiller ces archives ou trouver des pistes pour écrire cette biographie?
Mais pas du tout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il existe des trésors sur Guillaume Brune, d'abord aux Archives nationales et aussi surtout et beaucoup aux archives étrangères, aux archives du ministère des Affaires étrangères. Et comme il n'y avait jamais eu de biographie écrite sur lui, sauf quelque chose de très hagiographique qui avait été écrit par sa famille assez rapidement après sa mort, enfin, oui, après son massacre, je peux dire, ben ça m'a justement intéressé de me pencher sur ses archives et de voir, parce qu'il y a une chose que j'ai tout de suite comprise, c'est que ben, Napoléon n'aimait pas ce maréchal. Et de là est venue toute cette recherche de ma part. Pourquoi Napoléon avait-il nommé un homme que finalement, pour lequel finalement il n'avait aucune sympathie? Donc c'est ça qui a déterminé mon travail.
Nous allons donc pouvoir en apprendre davantage sur ce maréchal Guillaume Brune, Un destin tragique, par Florence de Beaudus aux éditions Memoring. Ultime question, qu'est-ce qui a été le plus intéressant dans cette enquête historique, Florence de Beaudus? Est-ce que ça a été justement de travailler sur cette relation difficile entre Napoléon et ce maréchal? Est-ce que ça a été de se replonger dans cette période que vous connaissez finalement? Quel plaisir finalement avez-vous pu tirer de cette exploration?
C'est toujours très intéressant de regarder la même histoire d'un autre point de vue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tourner autour de cet empereur Napoléon et de voir comment il a été, quelles ont été ses faiblesses, quelles ont été les raisons pour lesquelles tel ou tel personnage a été encensé ou disgracié. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler sur Brune. Brune n'était pas du tout à l'origine destiné à avoir une carrière militaire. Comme je vous l'ai dit, il est né à Brive. Il est né dans une famille de notables. Son père était dans ses cours souveraines, ses cours des aides, ses cours qui étaient en pleine décadence avant la Révolution et qui d'ailleurs ont complètement disparu pendant la Révolution. Donc il était destiné à avoir une carrière administrative, soit dans le notariat, soit dans la magistrature, quand arrive la Révolution. Et finalement, lui, il avait plutôt une vocation littéraire. Il avait envie d'écrire. Donc, au départ, il arrive, il travaille, il monte une petite imprimerie, il essaie de fonder un journal. Il fait même un voyage en France et il écrit ses souvenirs, avec un certain sens poétique d'ailleurs. Bon, et puis arrivent tous les événements que nous connaissons. Et c'est là qu'il va être pris dans la tourmente révolutionnaire et surtout parce qu'il se passionne tout de suite et il prend tout de suite position comme républicain convaincu. Même
C'était
comme révolutionnaire, si vous voulez.
d'ailleurs une première question. Est-ce que son extraction familiale explique tout ou partie, vous l'appelez le farouche républicain à un moment, est-ce que finalement c'était assez naturel pour lui de prendre part de manière aussi intense à la Révolution française ou est-ce que c'est une surprise dans sa famille?
Non, non, c'est un sentiment tout à fait personnel, parce que bon, il est fils unique, hein, mais ses parents sont plutôt traditionnels. C'est une famille de la bourgeoisie, même apparentée à l'aristocratie, donc pas du tout de vouloir avoir une revanche sur la France, la France de l'Ancien Régime, mais c'est par conviction, probablement par conviction, et puis il se lie tout de suite avec ceux qui vont être les révolutionnaires. Il se lie avec Danton, il se lie avec tous ces gens-là, et puis il est franc-maçon, il est farouchement athée, donc farouchement attaché aux valeurs que prône la Révolution à ce moment-là.
Une certaine prédisposition à la rébellion que j'ai notée, là, dans un aspect plus biographique, c'est qu'il a fait un mariage assez étonnant pour son milieu familial.
On ne sait pas grand-chose de ce mariage. Bon, on sait qu'il a rencontré cette femme qui était ouvrière, qui était brunisseuse, qui était une simple ouvrière. On ne sait pas d'ailleurs, on ne connaît pas la date exacte de leur mariage. Et cette femme, qui s'appelait Angélique Nicole, est restée dans l'ombre jusqu'à, nous en parlerons plus tard, jusqu'à la mort ignominieuse de son mari. Elle n'apparaît absolument jamais, dans la vie. D'ailleurs, elle le suit très très peu dans sa vie militaire, mais on sent chez elle un attachement et chez lui aussi un attachement de couple. Ils resteront unis jusqu'au dernier jour. Mais c'est certainement un mariage qui n'a pas plu à la famille. D'où son problème de finances. Il n'a pas d'argent, et il va essayer par tous les moyens d'en avoir et de pouvoir vivre par ses propres moyens.
Nous l'avons dit, inscription donc dans la tourmente révolutionnaire pour Guillaume Brune. Ainsi écrivez-vous, Florence de Bauduce, après les premières émeutes de juillet 1789, il semble s'être fait inscrire comme grenadier de la garde nationale de Paris, peut-être comme capitaine. En marge du document conservé aux archives de Vincennes, il est indiqué non prouvé. Cela prouve surtout, écrivez-vous, qu'il est encore trop peu pour qu'on s'intéresse à lui.
Oui.
Comment sait-on, que sait-on de cette navigation qui va l'emmener de la garde nationale très rapidement, vous l'avez dit, au club des Cordeliers, où il va être ami de Danton, Desmoulins et Fréron?
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde son dossier militaire à Vincennes, on se rend compte que dans les premiers temps, il est tellement peu connu. Je suppose qu'on a voulu garder les documents qui concernaient le début de sa carrière militaire, mais on n'a rien. On a même pas de preuve de son avancement. Donc presque tout est sujet à rumeur dans les premiers temps de sa vie militaire. Tout est sujet à rumeur et tout est sujet d'ailleurs à calomnie, puisqu'on ne sait pas grand-chose. Et comme vous le savez, quand on ne sait pas grand-chose, on aime bien dire du mal. Et ça ne va pas rater pour Brune.
Il est tout de même un aspect objectivement étonnant, c'est qu'on voit donc cette famille de juristes, ce passionné de lettres, qui s'engage dans la Révolution française. Pour l'instant, on n'a aucun prémisse de sa carrière militaire. Finalement, comment rencontre-t-il le métier des armes au cœur de la Révolution française?
Ben, il est donc engagé, d'abord engagé volontaire. Il s'occupe au début de l'approvisionnement des troupes. Alors là, évidemment, c'est toujours une manière de faire de l'argent, pas toujours de façon extrêmement loyale et extrêmement honnête, si vous voulez. Mais
C'est pas un métier de probité.
voilà, mais il n'est ni le premier ni le dernier. Et parmi les maréchaux de Napoléon, c'est certainement pas le plus vénal de tous. Mais enfin, bon, ça n'était pas non plus un héros de la loyauté sur ce plan-là. Bon, il a besoin d'avoir de l'argent. Il est certain que lorsqu'il approvisionne les troupes, ben, il se sert au passage, bien sûr, qu'il ne le ferait pas. Bon, enfin bref, lui l'a fait. Ce qui est plus problématique dans les rumeurs assez sordides qui le concernent, c'est lorsqu'il est à Bordeaux, la marquise de la Tour du Pin qui acquérera ses mémoires le traite même de boucher, et ça, ce n'est absolument pas prouvé. Il a plutôt protégé, et d'ailleurs les Bordelais lui en sauront gré, il a plutôt protégé la population contre les exactions des plus farouches révolutionnaires à ce moment-là. On l'a même accusé d'avoir participé au massacre de septembre et même d'avoir été le premier à massacrer la princesse de Lamballe. Or, c'est absolument faux, puisque au moment où la pauvre princesse de Lamballe est massacrée, ben, lui n'est même pas à Paris. Il est en Belgique à l'armée. Donc, si vous voulez, il y a toute une espèce de légende noire qui se crée autour de ce personnage. Qui a été probablement d'ailleurs plutôt exacerbé, si vous voulez, comme beaucoup après 1815, et qui ont fait de Brune ben finalement une espèce de démon vénal et cruel, quoi, si vous voulez.
On peut noter, au-delà de cette histoire, et c'est un des éléments importants de votre biographie, puisque c'est cet assassinat de la princesse, horrible assassinat de la princesse de Lamballe, est quelque chose qui est reproché pour beaucoup de mémoire au maréchal Brune. Il était donc intéressant d'y faire pièce par les archives. En revanche, on remarque quand même que de l'engagé, du jeune des clubs des Cordeliers, il devient assez rapidement en cours au ministère de la Guerre, hein, puisqu'il y est appelé en 1792, et que s'il demande à rentrer au front, il n'en reste pas moins qu'il va poursuivre cette carrière avec, on le sent, sinon des protections, du moins au moins un réseau d'affection au sein de ce ministère. Ça, c'est assez frappant.
Oui, et puis lorsque les personnages, enfin ses supérieurs, ne lui conviennent pas et qu'il apprend qu'ils vont être guillotinés, ça ne le trouble pas outre mesure. Il dit, bah, dans le fond, c'est comme ça que ça doit se faire. Et il n'hésite pas d'ailleurs à espionner, si vous voulez, à donner des renseignements sur tel ou tel personnage pour les faire arrêter et emmener et être condamnés. Donc, il n'a pas d'état d'âme sur ce plan-là. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'en sort, puisque ses amis, Danton, les Moulins, vont tous être emmenés à la guillotine, et lui va échapper à cette condamnation.
Un des éléments qui retient l'attention avant même cette période de 1794-1795, hein, sur ce que vous nous expliquez, Florence de Bauduce, c'est l'épisode d'octobre 1793, où, suite à une victoire sur les Anglais, les régiments dans lesquels il sert sont accusés de ne pas avoir suffisamment poursuivi l'ennemi pour le mettre en pièces. Et là, il se produit un incident intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît, Florence de Bauduce?
Oui, ben le général qui était au-dessus de lui, ben va être arrêté, va être emmené à la guillotine. Il y a une lettre que j'ai retrouvée ben grâce à Charles Éloi Vial, qui est le conservateur de la BNF et qui a toujours des trésors à donner à ses amis qui écrivent des livres. Et cette lettre montre bien que Brune, alors il faudrait que je vous la retrouve, mais vous l'avez certainement sous les yeux, que Brune. Ben, n'hésitez pas, si vous voulez, à expliquer que ben, si un de ces c'est le fameux Houchard, si vous voulez, voilà, le fameux général Houchard, ben, finalement, il est brave, mais enfin, il dit suffisamment de mal de lui pour que finalement le pauvre général Houchard soit guillotiné au mois de novembre, donc à la fin de 1793. C'est comme ça, vous savez, c'était celui qui restait en vie, c'était celui qui avait permis la condamnation de celui d'en face. Hein. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de, rien n'est très très clair, tout est confus à ce moment-là, parce que, comme vous le savez, il suffisait d'un rien pour être condamné, un rien pour être sauvé de la guillotine. Donc Brune s'en sort, c'est comme ça.
Vous l'avez dit, donc 1794-1795, il est employé par le comité de salut public, il échappe aux exécutions, puisque, évidemment, pour ceux qui ont assisté à la Révolution française, on a cité les noms de Danton et de Desmoulins, c'est la période où ils disparaissent de la vie politique française. Vous expliquez que c'est grâce à la protection de Barras et de Fréron qu'il réussit, notamment le 5 avril 1794, à ne faire qu'assister à l'exécution de ses amis et à en échapper.
Oui, vous voyez, c'était pas les plus vertueux de toute la compagnie des révolutionnaires, mais ils étaient à ce moment-là très puissants, l'un comme l'autre, et c'est grâce à Fréron et à Barras que Brune s'en sort. Et puis finalement, comme vous le savez, avec la condamnation de Robespierre, la terreur se calme et Brune se sort de tous ces problèmes. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a accusé, entre autres, d'être l'égorgeur d'Avignon, mais il n'était pas à ce moment-là, il n'était pas en Avignon lorsque Fréron a mené toutes ces exactions. Et on a l'impression que plutôt Brune a essayé de calmer le jeu lorsqu'il est retourné à Avignon.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Mer a le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Florence de Baudus qui publie Guillaume Brune, un destin tragique aux éditions Memoring et qui nous fait partager davantage de connaissances sur la vie de ce maréchal d'Empire, si mal connu, et on va le voir, si mal connu pour des raisons de lutte historiographique, mémorielle, et qui sont absolument passionnantes à explorer avec vous, Florence de Baudus. On sait qu'il doit rencontrer Napoléon le 5 octobre 1795, puisqu'à ce moment-là, il est assigné comme général de brigade avec ses fantassins aux côtés de Bonaparte et de Murat au moment de l'insurrection royaliste de l'église Saint-Roch à Paris.
Absolument. On a toujours parlé de la relation qui s'était créée entre Murat et Bonaparte, mais il y a d'ailleurs aussi donc Brune qui est là aux côtés. C'est comme ça qu'ils se rencontrent pour la première fois. Et qu'à ce moment-là, Bonaparte est plutôt séduit par ce jeune officier à qui il va d'ailleurs faire offrir une épée d'honneur pour sa conduite au moment de Vendémiaire.
Donc, à ce moment-là, finalement, on peut dire que Brune est un homme de la Révolution très en cohérence avec toute une série de... avec toute une série de ceux de sa génération. Finalement, c'est un jeune homme plein d'ambition.
Qui a le vent en poupe et qui se prépare à avoir une belle carrière militaire, puisqu'il a déjà compris que le général Bonaparte était celui qu'il fallait suivre. Et Bonaparte a plutôt de la sympathie et je dirais même une certaine admiration pour ce jeune officier ambitieux et qui lui semble intéressant à suivre. Et à protéger.
C'est évidemment intéressant de noter, puisque le 2 mars 1796, écrivez-vous, Florence de Baudus, sur le point d'épouser Joséphine, et Napoléon Bonaparte est nommé général en chef de l'armée d'Italie. Un général lui succède pour faire face à la conjuration dirigée par Gracchus Bagbeuf. C'est à Brune qu'il demande le 28 avril de procéder au licenciement des troupes de police casernés dans un quartier dont j'oublie le nom.
Mouffetard, le quartier de Mouffetard.
Mouffetard, pardon. Et de l'Estrapade, qui ont favorisé les conjurés. Donc là, il est déjà affaire à des vraies opérations politiques importantes pour le moment.
Oui, et comme vous voyez, il s'est occupé de la répression des royalistes, et là, la répression de Babeuf, c'est la répression des autres. Vous voyez, donc il n'a pas d'état d'âme pour réprimer qui il doit réprimer. Mais là, c'est là qu'il va évidemment commencer une véritable carrière avec Bonaparte, puisqu'il le suit. Bonaparte part pour l'Italie, il est au cœur de toutes les victoires légendaires, Rivoli, Arcole, toutes ces premières victoires magnifiques d'Italie, et Brune est à ses côtés.
Et Brune fait plutôt preuve de bravoure, d'efficacité militaire, jusque-là... j'allais dire, son bilan est tout à fait honorable.
Oui, et c'est là que commencent à monter les premières jalousies, comme vous le savez, dès qu'un officier. On a tout de suite compris dans l'entourage de Bonaparte que, il fallait être bien vu de Bonaparte, et le fait que Brune soit assez proche de Bonaparte ne plaît pas aux autres. Et c'est comme cela que vous verrez dans les mémoires de gens comme Thiébault, qui se moqueront de lui en disant que bon, bah, il avait tout fait pour. Non pas parce qu'il était brave, mais parce qu'il savait y faire, qu'il avait de l'entregent, et que c'était comme ça qu'il était arrivé à obtenir les faveurs de Bonaparte. Mais s'il est détesté de ceux qui sont plutôt ses égaux, des gens comme Masséna vont le trouver, vont plutôt être séduits par cet homme. Donc, c'est toujours pareil dans un milieu où les ambitions se montent, ben, il y a toujours ceux qui arrivent plus vite et ceux qui sont jaloux et qui vont. Et évidemment, la malchance qu'a eue Brune, c'est qu'il n'a pas eu le temps d'écrire des mémoires. Donc, il n'a pas eu le temps de se justifier, alors que d'autres, après, par la suite, ont pu écrire ce qu'ils voulaient. Et c'est pour cela que c'est intéressant non pas de le réhabiliter complètement, mais tout de même d'être honnête vis-à-vis de ce personnage.
Afin que l'on saisisse bien sa place dans cette campagne d'Italie, est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie du premier cercle de Napoléon Bonaparte, ou est-ce que ce serait à définir plus avec plus de circonspection?
Ah oui, à ce moment-là, il est vraiment très très proche de Bonaparte. D'ailleurs, Bonaparte, je vous dis, lui fait envoyer un sabre d'honneur. Il est là lorsque Bonaparte fait venir sa femme, Joséphine, à Montbello avec toute sa famille, que Bonaparte vit pour la première fois une espèce d'existence de souverain, puisqu'il reçoit les ambassadeurs de tous les pays. Il a auprès de lui les savants, il a auprès de lui Monge, Berthollet, il a évidemment ses officiers, il a Murat qui fait la connaissance de la toute jeune Caroline et qui se dit que finalement cette jeune fille, parce qu'elle n'a encore que 14 ans, est tout de même assez charmante. Et Brune est là, bien sûr, et ben Brune fait partie de la garde rapprochée de Bonaparte.
Nous allons continuer à explorer cette vie du maréchal Guillaume Brune à l'occasion de votre biographie Florence de Modus, Guillaume Brune, un destin tragique aux éditions Memoring, après une première pause musicale qui nous est proposée par Benoît. Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyre a le plaisir et l'honneur de recevoir Florence de Modus à l'occasion de la publication de sa biographie de Guillaume Brune, un destin tragique aux éditions Memoring. Nous sommes désormais, Florence de Modus, le 5 février 1798, et nous nous trouvons à Lausanne. On pourrait s'étonner de se retrouver à Lausanne. Pourquoi est-ce que Guillaume Brune arrive en Suisse?
Tout simplement parce qu'il s'est vu confier le commandement des troupes de l'armée du Rhin. Comme vous le savez peut-être, Napoléon Bonaparte a à ce moment-là déjà en tête le désir d'organiser. Bon, il veut, l'obsession de Bonaparte, c'est de vaincre les Anglais. Il se dit que peut-être une façon de vaincre les Anglais, c'est d'aller les chercher en Orient, ce qui lui permettrait d'avoir des victoires là-bas. Et puis, il imagine quelque chose d'assez extraordinaire, d'emmener toute une équipe de savants, de doubler cette conquête militaire qu'il croit vraiment intéressante avec une conquête culturelle. Pour cela, pour cette campagne, il lui faut de l'argent. Donc, Brune est chargé à Lausanne, en Suisse, de s'emparer du trésor de Berne, qui n'était pas rien, parce que déjà en Suisse, comme vous le savez, les Suisses avaient déjà beaucoup d'argent. Et Brune, d'abord, doit faire vivre son armée en Suisse, donc il a besoin d'argent pour faire vivre ses troupes, et d'autre part, de chercher de l'argent pour l'envoyer à Bonaparte, pour que Bonaparte puisse financer cette campagne en Égypte. Alors évidemment, ce n'est pas du tout des goûts des Suisses, notamment d'un journaliste qui s'appelle Mallet Dupont, qui est quand même bien connu et qui est horrifié.
Je ne résiste pas au plaisir de citer l'article que vous reproduisez dans l'ouvrage. Mallet Dupont écrit ainsi: homme plus expert, non dans l'art militaire, mais dans la mécanique révolutionnaire et dans les raffinements du crime.
Ah bah oui, vous voyez comme c'est délicieux. On s'envoyait des tas de compliments à l'époque. On avait peut-être pas les réseaux, mais on avait quand même ce qu'il fallait pour être intelligent. Non, non, mais là c'est vraiment. Il est vrai d'ailleurs, Brune n'est pas du tout accusé par qui que ce soit, à part Mallet Dupont, d'avoir pris. C'est pas pour lui cet argent-là. C'est vraiment pour financer cette campagne d'Égypte. Mais bon, il n'empêche, et d'ailleurs, ses troupes continuent Bonaparte lui garde sa confiance, tout le monde lui garde sa confiance. Mais enfin bon, c'est une première calomnie qui va le poursuivre. Ça, c'est évident. Il n'est pas heureux en Suisse. Il a l'impression que tout lui est hostile, tout est hostile autour de lui. Il n'a qu'une envie, c'est de partir pour l'Égypte avec Bonaparte. Mais bon, cela ne lui sera pas offert et Bonaparte lui demande de rester en Italie, de prendre le commandement des troupes italiennes, ce qui évidemment ne va pas du tout plaire à ceux qui restent parce que il a déjà beaucoup de jaloux autour de lui. On le soupçonne. Bon, à ce moment-là, il y a encore des histoires d'argent aussi, des problèmes avec Joséphine, qui elle aussi a toujours besoin d'argent. Il y a une espèce de compagnie qui s'est créée, la compagnie des frères Bodin. Brune voudrait essayer de mettre au clair cette histoire un petit peu sombre de finances autour de Joséphine. Donc, Joséphine n'est pas très content de voir que Brune se mêle de ses affaires personnelles et de ses affaires financières. Donc ça ne va pas non plus arranger les affaires de Brune.
Je ne résiste pas au plaisir de citer ce que vous reproduisez de la lettre de Brune à Barras pour essayer de se sortir de ce pétrin. Brune écrit: décidément, je demande un autre emploi où mon rappel, j'aime la République et la gloire, les intrigues et les jalousies m'empêchent de servir ma patrie.
Eh oui, c'est très difficile. En fait, on a l'impression que Brune ne s'est jamais sorti, dans toute sa carrière militaire, ne s'est jamais sorti des intrigues qui tournaient autour de lui. Alors, il y en a d'autres qui s'en sont mieux sortis, mais lui ne s'en est pas sorti. Il y a toujours eu, il a toujours eu à se défendre, d'accusations fondées ou pas fondées. En tout cas, là, elles n'étaient pas fondées. Mais c'était difficile à ce moment-là, oui.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, Charles de Meyer, de Saint-Florence, de Bonus. Nous sommes désormais en 1799. Alors, il faut dire, apporter au crédit du maréchal Guillaume Brune, qu'il a su traverser des périodes extrêmement délicates. 1789, on l'a dit, la période 94-95 dont il réchappe un peu miraculeusement d'un point de vue au moins politico-judiciaire. Et là, il arrive dans un moment de déliquescence. Il faut dire, je crois, pour comprendre un peu la suite, Florence de Baudus, l'état de la France du Directoire en 1799.
Ah ben oui, comme vous le savez, le Directoire n'est pas la période la plus glorieuse de la République française. Et bon, ben, Bonaparte est toujours en Égypte, on n'a pas énormément de nouvelles de lui. Et étant donné qu'il y a une espèce de vacance du pouvoir, tout le monde se demande qui pourrait éventuellement, même au cas où Bonaparte serait tué, parce que évidemment, on subodore que Bonaparte pourrait jouer un grand rôle, mais si Bonaparte est tué en Égypte, qui pourrait prendre sa place? À ce moment-là, Brune est en Hollande. Il a un commandement en Hollande. Et là, j'ai découvert tout un monceau de lettres aux archives nationales et sa correspondance avec un de ses officiers, qui s'appelle Louis Agnel, qui est blessé à ce moment-là, qui est à Paris. Et ça, c'est très, très amusant comme correspondance, parce que Louis Agnel est invité partout, notamment chez Talleyrand, chez Bernadotte, bon, tous les politiques qui comptent à ce moment-là à Paris. Et le nom de Brune circule dans les salons. Brune pourrait peut-être être l'homme qui pourrait compter en politique et devenir éventuellement ministre et prendre quand même une importance. Bon, vous allez me dire, Agnel est très admiratif de son officier supérieur. Il est aussi républicain que Brune. Donc, sa panique, c'est que les royalistes reprennent le pouvoir. Donc, il fait très attention à tout cela. Et un officier qui aime beaucoup Brune, c'est donc Bernadotte. Ils ont les mêmes idées républicaines. Ils ne sont pas non plus… Bernadotte, à ce moment-là, est ministre des… Il est ministre des Affaires étrangères. Non, il n'est pas ministre. Il est ministre de la guerre, pardon. Finalement, il aimerait beaucoup que Brune revienne à Paris et prenne une importance politique à Paris. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. Quelqu'un comme Marbeau n'aime pas du tout Brune. Enfin, vous me direz, dans cette espèce de panier d'intrigues, on se rend compte que tout est possible, si vous voulez, pendant ces quelques mois de 1799. Finalement,
on peut écouter, si vous voulez, Bernadotte, qui parcourt les lettres de Brune et qui dit « Avec ses gestes, ses signes de la tête qui annoncent le plaisir et l'amitié de l'ami sincère. Pauvre Brune, si tous faisaient comme toi, la République triompherait. »
Mais voilà, ce sont des républicains convaincus. Or, Brune, qui se bat donc là en Hollande, qui se bat contre les Anglo-Russes, obtient une victoire magnifique à Bergen, où il bat le duc d'York. Il reçoit même les compliments, les félicitations de Talleyrand. Et plus tard, à Sainte-Hélène, Napoléon lui rendra hommage et rendra hommage d'ailleurs à ce moment aussi à Masséna, qui, dans le même temps, obtient une victoire magnifique aussi à Zurich. Seulement, comme vous le savez, Bonaparte était un génie de la communication, et il n'était pas question que Brune et Masséna prennent la lumière, alors que lui, évidemment, avait subi des défaites assez épouvantables en Égypte, notamment à Saint-Jean d'Acre, mais finalement avait remporté une victoire, bon, pas extraordinaire, mais tout de même une victoire à Aboukir. Donc il va rentrer et va exalter cette victoire d'Aboukir et va reléguer dans l'ombre les deux victoires de Brune et de Masséna. Et c'est comme cela que Bonaparte va prendre le pouvoir, et comme vous le savez, au 18 Brumaire.
Ah non, évidemment, le républicain de Brune doit considérer, outre cette concurrence des ambitions, doit considérer le 18 Brumaire comme un attentat à ses souhaits. Comment réagit-il à ce moment-là?
Il n'est pas l'ennemi de Bonaparte, hein, de toute façon. Il y a des choses qu'il ne va pas du tout apprécier tout de suite dans le consulat, puisque lui est un fervent républicain. Donc, il se rend bien compte que le consulat, c'est une marche vers la monarchie, vers un pouvoir monarchique, ce que Brune n'aime pas du tout. Et comble de comble de tous, c'est que Bonaparte va signer le concordat et rétablit la paix religieuse, ce que Brune non plus n'aime pas du tout. Il va traîner des pieds pour aller à Notre-Dame. Toute cette marche vers une monarchie religieuse ne lui plaît absolument pas. Donc, est-ce à ce moment-là qu'il va se détacher des ambitions de Bonaparte, même si il reste tout de même, il a bien compris que c'était l'homme qu'il fallait suivre. Donc, de toute façon, il n'a pas le choix. Bonaparte l'envoie pacifier la Vendée, ce qu'il fait très bien, d'ailleurs. Brune va quelques semaines en janvier. En janvier-février, il va donc en Vendée. Il organise un rendez-vous entre Cadoudal et Bonaparte, qui, comme vous le savez, ne va rien donner. Mais enfin, bon, Brune fait tout de même preuve d'habileté dans ses négociations. Bonaparte se rend compte que Brune n'a pas seulement des qualités militaires, il peut aussi avoir des qualités diplomatiques. Et ça va être intéressant pour la suite des événements.
Qualité diplomatique importante. Qualité, j'allais dire presque à contrario de sa légende noire, ce qu'il fait avec l'armée de l'Ouest est plutôt pragmatique dans sa manière d'assumer ses responsabilités.
Oui, je pense que vous avez raison. C'est un bon adjectif pour lui. C'est un homme pragmatique. Sauf que, il n'aime pas beaucoup, je vous dis, la direction que prend ce consul Bonaparte à vouloir le pouvoir pour lui tout seul. Il est bien obligé de se soumettre à ce moment-là.
Nous en arrivons maintenant au départ de Brune pour l'Italie. On voit que c'est un pays qui a compté.
Qui compte pour la France, oui, bien sûr.
Pour la France et pour sa carrière. Que va-t-il faire en Italie? Pourquoi y est-il nommé?
Il est nommé parce que Bonaparte a remporté de nouveau. Parce que l'Italie avait. Enfin, il y avait eu beaucoup de problèmes en Italie pendant que Bonaparte était en Égypte. Tout avait été reperdu. Les victoires acquises par Bonaparte avaient été absorbées par d'autres défaites. Donc, en Italie, Bonaparte reprend l'ascendant, bien sûr. Donc, Brune est nommé commandant en chef de l'armée d'Italie. Ce qui ne plaît absolument pas à Murat. Okay. Là, il y a une jalousie féroce entre Murat et Brune, de Murat vis-à-vis de Brune. Et puis, même avec Leclerc, le mari de Pauline, le beau-frère de Bonaparte, Brune ne s'entend ni avec Leclerc, ni avec Murat. Bon, il essaie tant bien que mal de mener, si vous voulez, une pacification civile aussi, mais ce qui n'est pas évident parce que les Italiens ne sont pas sont assez révoltés contre la présence des troupes, la façon dont les troupes françaises se conduisent en Italie, vivent sur leurs finances. C'est une armée d'occupation, hein, et ça n'est pas simple. Donc Brune
doit finalement faire face à la difficulté d'une armée d'occupation, à un entourage qui ne lui est pas directement fidèle. Enfin, l'équation est extrêmement complexe.
Oui, bien sûr. En plus, Brune s'est lié d'amitié aussi avec le général Moreau, qui n'est pas non plus le meilleur ami de Bonaparte. Donc, vous voyez, les amitiés de Brune sont un peu à l'inverse de celles qu'il faudrait avoir dans la garde rapprochée de Bonaparte. Quoi. Ces sympathies vont plutôt contre ceux qui ne sont pas Bernadotte, Moreau, ce ne sont pas les meilleurs amis de. Et ce sont ceux qui ont d'ailleurs critiqué le coup d'État de Brumaire. Donc Brune fait partie de ce petit groupe-là, si vous voulez.
Par ailleurs, en trame de fond de ses choix personnels, d'ailleurs peut-être est-ce lié, il y a des convictions profondes. Ainsi écrivez-vous, Florence de Baudus, pourtant républicain convaincu, Brune reste réservé sur la marche de Bonaparte vers la monarchie. Et comme franc-maçon, il condamne vigoureusement la réconciliation qui s'amorce avec l'Église catholique dans la préparation du concordat. Un rapport de police signale les militaires hostiles à ce virage religieux. Brune en fait partie et c'est certainement à contre-cœur qu'il assiste au Te Deum chanté à Notre-Dame le 18 avril 1802 pour la promulgation du concordat. On voit bien qu'en plus de cet éloignement, de ces germes d'éloignement individuel, il y a aussi un rejet de l'inclination de Bonaparte politico-religieux à ce moment-là.
Et Bonaparte ne peut pas ne pas s'en apercevoir. Donc c'est la raison, une des raisons pour lesquelles Bonaparte va envoyer Bruno loin. Il a envoyé l'âne au Portugal parce qu'il avait eu des problèmes avec l'âne et il va envoyer, comme vous le savez, Brune pour d'ailleurs une ambassade extrêmement brillante à Constantinople.
Oui, parlons un peu de cette ambassade. Elle se fait un petit peu dans la prolongation de la paix d'Amiens. Où est-ce que Brune est-il envoyé et pourquoi est-ce que c'est un poste extrêmement prestigieux à ce moment-là?
Eh bien, parce que depuis 1792, on était en guerre avec les Turcs. Donc la paix d'Amiens rétablit la concorde entre la France et l'Angleterre, donc entre la France et Constantinople, qui était alliée des Anglais. Donc des ambassadeurs vont de nouveau pouvoir être envoyés dans l'un et l'autre des pays. Donc Bonaparte choisit Brune, qui a tout de même à son actif plusieurs victoires militaires, qui a une aura, si vous voulez, militaire, qui a une très belle prestance, et il se dit que pour cette ambassade qui est difficile, Brune va probablement pouvoir lui rendre service. Et en même temps, ça lui permet de l'envoyer un petit peu loin de lui, ce qui n'est pas non plus, finalement, ce que Bonaparte veut. Brune va y rester. Oui, Brune va rester un an, et c'est vraiment une des plus belles années de la vie de Brune.
Oui, c'est très intéressant de s'y arrêter, parce que là, on a la confluence à la fois des relations diplomatiques françaises, des enjeux de la guerre, de questions extrêmement importantes pour l'Empire. D'abord, quelles sont les missions qui sont assignées à Brune pour cette ambassade?
Alors, il doit faire régner, si vous voulez, faire comprendre aux Turcs que la France est le pays le plus important du monde. Donc, on est en paix avec les Anglais, Brune va pouvoir passer par la Méditerranée, va pouvoir traverser la Méditerranée. Il ne risque pas, ses navires ne risquent pas d'être attaqués par la marine britannique. Et il va partir avec des cadeaux somptueux, parce que vous savez bien, il faut provoquer l'admiration des yeux du sultan et de tous ses ministres. Donc Brune part avec sa femme, bien sûr, s'arrête à Lyon pour faire des commandes extraordinaires de soieries, de meubles magnifiques pour les cadeaux. Et puis, va arriver, alors évidemment, comme vous imaginez, on ne voyage pas aussi facilement à ce moment-là qu'on voyage aujourd'hui. Les vents sont contraires pendant un bon moment. Finalement, il a un mois de retard. Quand il arrive, les Anglais et les Russes sont trop contents de faire croire qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, il a une réception un petit peu gâchée parce que l'ambassadeur russe et l'ambassadeur anglais ne sont pas présents. Et ça va être une suite de passes d'armes, de diplomatiques avec ces deux ambassadeurs et avec l'Autriche, bien sûr. Les Russes veulent absolument que la mer Noire soit leur propriété particulière, si vous voulez. Vous savez, aujourd'hui, on retrouve exactement toujours les mêmes problèmes, diplomatiques, les mêmes problèmes de territoire qu'il y avait à ce moment-là. Donc la mer Noire doit être un lac russe. Les Grecs ont beaucoup d'importance à ce moment-là. Or, comme vous le savez, les Grecs et les Russes partagent la même religion orthodoxe. Et tous les interprètes étant grecs, c'est un petit peu compliqué pour Brune de se faire une place, mais il le fait. Il s'installe tout de suite dans un magnifique palais, il offre des réceptions, il va à droite à gauche, il s'astreint d'ailleurs au devoir religieux. Il va visiter, parce que c'est très important là-bas, il va visiter toutes les églises chrétiennes. Il va aussi à la mosquée. Enfin, donc, il tient sa place. Mais toujours des querelles de protocole. C'est une histoire de tous les instants. Alors, il est très aidé par les attachés d'ambassade qui étaient là depuis longtemps. Mais,
oui, alors, de beaux développements, d'ailleurs, par de Modus, c'est très intéressant. Vous leur consacrez d'ailleurs de beaux développements, et c'est très intéressant à ce propos.
J'ai retrouvé aussi des archives à l'école de médecine, parce que bon, il y a aussi toute une correspondance avec un certain Kieffer qui était attaché d'ambassade. Donc on a tous les petits détails, si vous voulez, de la vie d'une ambassade, avec les dîners, avec les plats qui sont servis, avec les cadeaux qui s'échangent, et puis toujours, est-ce que l'ambassadeur de France a été mieux traité? Ah, mais alors la femme de l'ambassadeur d'Angleterre était là, donc il faut que Madame Brune soit là. Mais Madame Brune s'habille en homme. Alors là, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Madame Brune est habillée en homme, mais elle est très bien acceptée aussi. Donc tout est dans les détails et faire extrêmement attention à ne pas faire un pas de côté. C'est pour tout. Alors bon, Brune trouve ça à la fois intéressant, mais lui, il est militaire dans l'âme, finalement. Et au bout d'un moment, il commence à en avoir un petit peu assez de ces histoires de querelles, de préséances, la correspondance est longue à arriver, si vous voulez. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des lettres pratiquement quotidiennes de Talleyrand et même de Bonaparte qui lui écrivent pour lui dire exactement tout ce qu'il doit faire. C'est vraiment compliqué, quoi, si vous voulez.
Vous l'avez redit, mais celui qui donnera peut-être le plus de fil à retordre à Brune pendant son ambassade, c'est son homologue russe qui joue avec passion des égards et des difficultés que Brune peut avoir avec la Sublime Porte.
Qui s'appelle Italinski, d'ailleurs, un certain Italinski. Bah, alors, pendant que Brune est à Constantinople, se passe le drame, la tragédie de l'exécution du duc d'Enghien, pour laquelle d'ailleurs Brune trouve très très bien de s'aligner sur la décision de Bonaparte, et surtout le fait que Bonaparte va être nommé empereur. Et alors là, c'est là que les affaires vont se compliquer, parce que, Bonaparte exige de porter le même titre que l'empereur de Russie. Donc il veut se faire appeler à la fois impérador et pashmina. Bon, alors ça, ne me dis pas ça. Il exige d'avoir les deux titres. Or, seul, actuellement, à ce moment-là, seul l'empereur de Russie porte ces deux titres. Et bien sûr, Italinski refuse absolument cette histoire, et ça va être une des raisons. D'ailleurs, les Anglais suivent les Russes, donc Brune n'arrive absolument pas à se sortir de cette histoire. Ça prend des semaines et des semaines, et c'est ce qui va le déterminer d'ailleurs à demander son rappel.
Finalement, c'est un départ dans l'honneur pour Brune. On sent que
c'est un départ dans l'honneur, mais il n'aura pas réussi à faire reconnaître, si vous voulez, la place Napoléon comme véritablement empereur au même titre que le tsar Alexandre.
Il va donc rentrer cette fois-ci non pas par mer comme il l'avait fait.
Mais non, on est de nouveau en guerre.
mais par terre. Où rejoint-il Bonaparte et où va-t-il arriver en France?
Donc il passe par l'Autriche, vous voyez, il fait le grand détour et il arrive en France, il arrive par l'Italie. Il n'est pas rentré à temps pour le sac, mais il est là à Milan. Il est là pour le couronnement de Napoléon comme roi d'Italie. Donc il est à Milan au moment du couronnement. Et puis il rentre à Paris et il y a un passage. C'est lui qui va être envoyé à Boulogne, au camp de Boulogne. Si vous voulez, et c'est ça que Brune va regretter énormément, c'est qu'il n'est plus jamais, il ne va plus jamais être proche de Napoléon. Il demande, notamment à Berthier, qui est le ministre de la guerre, de pouvoir aller se battre aux côtés de l'empereur, et ça ne lui est jamais accordé. On l'envoie à Boulogne, alors que Napoléon part pour la campagne d'Autriche et pour les victoires magnifiques de la victoire magnifique d'Austerlitz. Et lui, Brune, ben, il est là, chargé à Boulogne pour une mission de surveillance. En fait, il ne se bat pas. Et ça, c'est quelque chose qui le rend désespéré, quoi, qui le désespère. Et jamais plus Napoléon ne le mettra près de lui. Jamais plus.
Nous allons continuer à explorer cette histoire de Guillaume Brune avec Florence de Baudus à l'occasion de la publication de sa biographie Guillaume Brune, un destin tragique aux éditions Memoring, après une deuxième pause musicale qui nous est proposée par Benoît.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Florence de Baudus qui nous présente la vie de Guillaume Brune, à laquelle elle a consacré une biographie, un destin tragique, aux éditions Memoring. On l'a dit avant de se quitter, Florence de Baudus, mais c'est important d'insister sur la chose. On pourrait se dire que garder la responsabilité du camp de Boulogne est une marque de confiance de Napoléon, mais c'est aussi une souffrance pour le maréchal Brune, qui n'a plus dès lors de proximité avec l'empereur.
Oui, c'est une sorte de mise à l'écart, finalement. Oui.
Cette mise à l'écart, que Brune va-t-il en faire, finalement, de Boulogne? Quelles vont être ses futures missions?
Bon, alors, comme vous le savez, il y a la magnifique victoire d'Austerlitz le 2 décembre 1805, et à partir de là, Napoléon, toujours obsédé à l'idée d'être victorieux des Anglais, instaure le fameux blocus continental qui va bloquer toutes les marchandises anglaises. Il va essayer, chose absolument impossible, de contrôler tous les ports de la côte en partant de la Baltique jusqu'à la Méditerranée pour empêcher les marchandises anglaises de pénétrer dans l'Empire français. Donc, pour surveiller de plus près les marchandises anglaises sur la Baltique, Napoléon envoie Brune à Hambourg comme gouverneur des villes hanséatiques et pour contrôler les douanes et pour que les marchandises anglaises n'arrivent pas ne pénètre pas dans les ports des villes hanséatiques. Et c'est là qu'il va se passer une affaire assez sombre. Il y a un dossier absolument énorme aux archives nationales. Vous imaginez les scandales financiers qu'on peut connaître aujourd'hui. Ben, il s'est passé à peu près la même chose, sauf que ça n'a pas eu la publicité que cela pourrait avoir aujourd'hui. Mais finalement, il va y avoir une enquête et on va se rendre compte que les marchandises arrivaient à passer et que, au passage, certains se remplissaient les poches, quoi, si vous voulez. Bon, alors, sont accusés en premier Bourrienne, l'ami d'enfance de Napoléon, qui était à ce moment-là gouverneur de Hambourg, qui va être mêlé à ce scandale. Il va y avoir aussi François de Montcabrier, qui lui est amiral et qui dirige les stations, tout ce qui est les stations portuaires. Et évidemment, Brune, en tant que gouverneur des villes hanséatiques, ne peut pas ne pas avoir été au courant de ce qui se passait et de la façon dont certains s'en mettaient plein les poches. Donc le scandale va, et c'est, il y a rien, si vous regardez en détail le dossier de Brune à Vincennes, il n'y a pas un mot sur cette affaire. Donc tout ça est très 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 nébuleux, très flou. D'ailleurs, Brune ne reconnaîtra jamais qu'il se soit passé la moindre chose. Mais lorsqu'il rentre à Paris, Napoléon refuse de le recevoir et il ne comprend pas ce qui se passe. Surtout que pendant qu'il était à Hambourg, il a obtenu une victoire militaire absolument magnifique puisqu'il s'est battu contre le roi Gustave IV, qui était donc le roi de Suède. Et il a obtenu une victoire extraordinaire à Stralsund, où l'armée française a vaincu l'armée suédoise. Or, évidemment, il a fait une bêtise diplomatique. Il a, dans le traité de paix, évoqué l'armée française et non pas l'armée impériale et royale. Donc, c'est cela qui va lui être officiellement reproché et c'est la raison pour laquelle Napoléon va le mettre en disposition et va refuser de le recevoir. Et c'est cette raison qui a fait qu'il a été ostracisé et pas de toute cette histoire financière dont Brune ne parlera jamais.
Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la mémoire de cette affaire finalement ? Qui a mis en avant dans la mémoire qui a été faite du maréchal Brune, même si on le dit au début de l'émission, elle est limitée, cette affaire et qui a essayé de la passer sous silence?
Mais tout le monde l'a passé sous silence. Simplement, on a une lettre de Napoléon beaucoup plus tard, puisque cette affaire se serait passée dans les années 1807-1808, et c'est en 1811 que Napoléon demande que soient exigés des remboursements de personnages comme Bourrienne, comme Montcabrier, comme Brune et même comme Talleyrand. Donc, si vous voulez, tout le monde doit rembourser des sommes. Bon, une chose est certaine, c'est que Brune n'avait aucune fortune personnelle, donc il n'a pas fait fortune avec cette histoire. A-t-il remboursé ou finalement a-t-il été exempté de ce remboursement? On ne sait pas. C'est assez flou. Mais il n'est pas formellement accusé puisqu'il n'est même pas entendu par la commission d'enquête. Bourrienne est entendu, enfin, mais lui n'est pas entendu par la commission d'enquête. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il est mis en disposition et que Napoléon ne veut plus le recevoir. Il se retire dans sa propriété et il va traduire les poètes grecs et il ne fait plus rien jusqu'en 1815.
Nous allons continuer cette émission, mais il faut bien noter un autre élément qu'on comprenne. À partir de ce moment-là, la carrière de Brune est marquée par la désaffection, alors même qu'il avait été très courageux dans son refus de céder à la proposition de trahison de Gustave IV. Ça aurait pu être retenu par Napoléon Bonaparte dans la fidélité de Brune. Or, au contraire, Napoléon l'a interprété de manière toute différente à l'époque.
Oui, parce que Brune avait fait l'erreur inexcusable aux yeux de Napoléon, c'était de nommer l'armée française et non pas l'armée impériale et royale. Or, l'armée était sous les ordres de l'empereur et pas uniquement l'armée de France. Donc ça, c'était la raison officielle pour laquelle Napoléon ne voulait pas pardonner à Brune.
Quelle va être la suite de la carrière de Brune ? On comprend qu'il n'est plus du tout en odeur de sainteté. Que va-t-il devenir ?
Il essaie d'écrire des courriers multiples à tous les ministres de la guerre qui se succèdent, en suppliant de pouvoir recommencer à servir. Ces lettres mortes. En 1814, il essaie d'entrer dans la campagne de France, rien à faire. Et c'est en 18... Alors, il essaie quand même de se dédouaner de cette histoire de signature du traité avec d'avoir nommé l'armée française, puisque ce n'est pas lui qui avait écrit le texte. Mais bon, finalement, au retour de l'île d'Elbe, Napoléon ne le reçoit pas, mais le nomme gouverneur en Provence, et Brune est envoyé à Marseille pour commander l'armée d'occupation en Provence, à Marseille. Il est à Marseille.
Évidemment, c'est une tâche particulièrement délicate.
C'est une tâche épouvantable. Il n'a pas d'argent, il n'a pratiquement pas de troupes, puisque Napoléon veut toutes ses troupes pour faire la campagne de Belgique. Donc, il n'a rien, pratiquement rien. Il y a Suchet qui est juste de l'autre côté en Suisse et qui lui aussi veut des hommes. Donc, ils essaient tous les deux d'obtenir quelques moyens en hommes et en argent. Ce qui est très, très important pour Brune, c'est de défendre Toulon, puisqu'à Toulon, il y a tout l'arsenal. Donc là, c'est surtout que ce Toulon ne tombe pas aux mains des Anglais qui recommencent à publier en Méditerranée. Donc là, c'est vraiment... on sent le désespoir de cet homme qui n'y arrive pas. Quoi. Si vous voulez, ça ne dure pas longtemps, mais il n'y arrive pas. Et puis, les communications sont très, très difficiles. Donc, les courriers n'arrivent pas. Il a beau envoyer des courriers au ministre, il n'a pas de réponse. Donc, il navigue à vue, si vous voulez. Donc, il finit par établir l'état de siège, ce qui va lui être reproché. Tous les Marseillais commencent à virer plutôt vers les légitimistes. Ils se rebellent contre le régime impérial. Et là, la situation devient absolument impossible pour Brune. Donc, parce qu'il a du mal à savoir Waterloo, il ne le connaît pas, il ne sait pas tout de suite. Il est là, il s'est installé à Toulon pour essayer de défendre au mieux cet arsenal qui, pour lui, est le plus précieux de ce qu'il a à défendre. Et puis, il apprend que finalement, le roi Louis XVIII est rentré à Paris, que Napoléon est prisonnier des Anglais et qu'il doit faire flotter le drapeau blanc et non pas le drapeau tricolore.
Ça, évidemment, c'est une difficulté de plus dans son parcours. Comment peut-il manœuvrer auprès des nouvelles autorités ?
Alors, d'abord, il estime qu'il doit recevoir ses ordres de Paris directement et non pas d'un simple officier qui arrive à Marseille. Donc là, il refuse d'obéir tant qu'il n'a pas vraiment reçu. Il s'estime tout de même au-dessus, si vous voulez, des ordres qu'on lui donne. Finalement, avec du retard, il fait arborer le drapeau blanc, mais il décide de se rendre à Paris pour aller prendre directement les ordres du nouveau ministre de la guerre. Et c'est là qu'il va rencontrer son destin.
Ce destin, évidemment, il va être terrible. D'abord, considérons un peu la chose, Florence de Bedus, est-ce qu'il aurait pu partir autrement ? Est-ce qu'il aurait pu partir avec davantage de sécurité, davantage de troupes? Est-ce que finalement, le maréchal Brune aurait pu être mieux protégé ou aurait-il avoir plus de secours pour monter à la capitale?
Alors oui, il aurait pu partir par la mer, ça aurait peut-être été moins dangereux, mais il ne veut pas avoir l'air d'abandonner ses troupes. Donc il décide de partir par la terre et de passer ce qui est d'une inconséquence incroyable, parce qu'il va passer par les endroits par lesquels Napoléon ont été passés en allant à l'île d'Elbe et où il avait failli se faire assassiner. C'est toute une région qui est extrêmement royaliste. C'est là où sévit la Terreur blanche, hein, d'ailleurs. Et bizarrement, il se sépare de. Il est parti avec une troupe un peu nombreuse et il se sépare de ses troupes. Enfin, on a l'impression que vous savez, quand une tragédie se joue, il y a des tas de petites choses qui font que on est dans un engrenage et que finalement les choses vont de mal en pis. Il se sépare de ses troupes, il n'a plus de chevaux, il ne peut plus faire changer ses chevaux, on le fait changer de route, enfin, tout se ligue pour qu'il arrive à Avignon, qui est la ville certainement la plus royaliste à ce moment-là et la plus hostile à ce maréchal.
Cette situation, elle est évidemment dramatique. Dans quelle ville arrive-t-il finalement? Le paysage, la tension locale, quelle est-elle à Avignon?
Mais cette ville n'est absolument pas tenue parce que celui qui s'occupe de la ville est un policier qui n'a pas vraiment beaucoup d'ordres, qui a sous ses ordres non pas des policiers, mais des... Bon, je sais pas très bien ce que sont les hommes qui sont sous ses ordres, mais ce sont presque des brigands, si vous voulez, sur lesquels il n'a absolument aucun pouvoir, extrêmement excité, extrêmement hostile. Brune arrive à s'installer dans une auberge, où d'ailleurs est installé le nouveau sous-préfet qui s'appelle Saint-Chamond et qui vient de s'installer lui aussi, qui est relativement lâche et qui va certainement se laver les mains de tout ce qui va se passer. Et Brune s'enferme dans sa chambre et c'est là que finalement les hommes vont passer par la fenêtre, vont monter par la fenêtre et vont le tuer, vont lui tirer deux coups de fusil et vont l'assassiner. Mais c'est à partir de là que les choses vont devenir absolument sordides, parce que le cadavre est sorti de la chambre. On voudrait essayer de le mettre dans un cercueil pour l'emmener, mais la foule se déchaîne. C'est une foule horrible qui va s'emparer du corps et aller le jeter dans le Rhône et danser autour de ce cadavre. Enfin, il y a des scènes absolument d'horreur, et tout de suite. Le bruit se répand que Brune s'est suicidée, ce qui est absolument faux. Et d'ailleurs, les lettres qui partent tout de suite vers les autorités officielles semblent prouver que Brune s'est suicidée et ne parle absolument pas de l'espèce de danse macabre qui se sont déroulées autour du cadavre. C'est horrible.
Nous allons faire, grâce au bon soin de Benoît, notre ultime pause musicale avant de parler du combat de la femme du maréchal Brune et de la lutte pour la vérité qui s'établit dès cette époque en la présence de Florence de Baudus. Nous nous rejoignons dans quelques instants. Thank you. Vous êtes de retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie dirigé par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Florence de Vaudus qui nous vient avec Guillaume Brune, un destin tragique aux éditions Memoring. Ce qui est passionnant maintenant, c'est de voir une lutte pour la vérité qui commence dès ce moment-là. Rappelons bien les éléments. Donc, le maréchal Brune est assassiné en Avignon le 2 août 1815. Il y a des mensonges, des manipulations sur les rapports sur sa mort. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler, Florence de Vaudus, un petit peu l'état des manipulations?
Oui, ben, y a tout de suite un rapport qui a été écrit par le major Lambeau, qui est le policier lâche, qui a permis, qui n'a pas été capable d'empêcher ce massacre, et qui écrit noir sur blanc que le maréchal Brune s'est suicidé. Donc c'est déjà un mensonge. Donc cette version officielle commence à courir dans toutes les chancelleries. Et à Paris, donc, Madame Brune, la maréchale Brune, apprend le massacre de son mari, évidemment convaincue que son mari n'a pas pu se suicider, se précipite dans le bureau du ministre de la Guerre, qui est à l'époque Gouvion-Saint-Cyr, à qui d'ailleurs elle donne le titre de maréchal pour bien montrer la proximité entre son mari et le ministre de la Guerre, et lui demande de faire la vérité, de lever le voile sur les circonstances exactes de la mort de son mari et surtout des suites de cette barbarie qui s'est propagée autour du cadavre. Ça ne va pas être simple parce qu'il y a une espèce… Bon, bien sûr, la terreur blanche finit par se calmer, mais c'est ce qui se passe aussi, c'est que le cadavre est déterré à la nuit par des fidèles de Brune qui essaient de l'enterrer, mais on le déterre. Enfin, il se passe des tas de choses absolument horribles et finalement, la maréchale Brune arrive à faire envoyer des personnages fidèles qui vont récupérer quand même les restes de ce pauvre maréchal et faire venir ses restes dans un cercueil dans la propriété de la maréchale, qui refuse absolument d'enterrer son mari tant que la vérité n'a pas été faite et tant que l'honneur de son mari n'a pas été lavé. Donc ça va durer plusieurs années. Il y a une espèce de résistance passive autour de cette histoire. Et finalement, les responsables sont plus ou moins poursuivis. Ils ne seront d'ailleurs pas inquiétés parce qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui finit par s'enfuir. Enfin, ils sont tellement mal recherchés qu'on ne les retrouve pas. Finalement, elle va arriver, mais longtemps après, hein, deux ou trois ans après, elle arrive à faire éclater la vérité. Donc il y a un procès. On reconnaît que le maréchal Brune ne s'est pas suicidé, mais a vraiment été assassiné. Mais tout de même, la maréchale devra payer tous les frais du procès, ce que je trouve absolument abominable. Enfin bon, c'est comme ça. Et finalement, elle arrivera. Vous vous rendez compte que ça se passe? Elle arrivera à ses fins en 1821, c'est-à-dire 6 ans après la mort ignominieuse de son mari. Et là, elle finira par pouvoir le faire enterrer au cimetière du village à côté de son château, à Saint-Just. Et c'est là qu'elle aussi pourrait être enterrée aux côtés de son mari. Et là, je trouve que cette femme qui est restée dans l'ombre pendant toute la carrière militaire de son mari a vraiment agi en héroïne. Et grâce à elle, la mémoire du maréchal Brune a pu être sauvée.
Est-ce qu'elle reçoit des soutiens d'anciennes connaissances de Brune, de ceux qui l'ont connue, ou est-ce qu'elle mène ce
combat? Elle se retrouve très seule, hein, finalement. L'avocat qui va s'en occuper et l'avocat qui avait essayé de laver, attendez, je ne me rappelle plus son nom exactement, mais si, il y a un journal, il y a des journaux quand même qui essaient de faire justice à… mais si, il y a quand même le maréchal Suchet, le duc d'Albufeira, qui va la soutenir. Si, quand même, le garde des Sceaux aussi. Mais On a envie d'enterrer cette histoire parce que c'est pas une histoire qui est à l'honneur des royalistes du Sud et on n'a pas envie de faire de la publicité autour de cette chose quand même assez ignominieuse, quoi, si vous voulez. Donc pourquoi est-ce que le maréchal Brune a mérité, il n'avait absolument pas mérité une chose pareille. C'est comme ça. Hein.
Alors, le travail de la postérité nous intéresse tout de même, même si on a bien compris qu'il y a eu un combat mémoriel sur Brune, avec notamment la mobilisation des journaux ultra à cette époque. Il y a un personnage qui revient dans votre ultime chapitre et auquel on ne s'attendait pas.
Je vois qui vous voulez dire.
Alexandre Dumas. Alors, que fait Alexandre Dumas quasiment 35 ans après la mort du maréchal Brune dans votre ouvrage? Est-ce que vous avez un problème d'anachronisme?
Non, mais Alexandre Dumas, le père, le général Dumas était un ami de Brune. Si vous voulez, ils étaient amis et évidemment, tous les deux assez peu bonapartistes. Or, lorsque il était tombé, donc le général Dumas était tombé en disgrâce pendant la campagne d'Égypte, et finalement, il est mort quand le petit Dumas n'avait que 4 ans, et Brune était le parrain de ce jeune Dumas. Maintenant, évidemment, c'était le seul appui, en principe, du petit garçon, et étant donné la disgrâce aussi qu'a connue Brune, Dumas n'a pas pu être protégé comme il aurait pu être protégé. Mais il a gardé toujours une tendresse pour ce parrain qu'il n'a pratiquement pas connu. Et lorsque, un jour, alors qu'il est déjà, on est en 1850, hein, alors qu'il se promène dans le milieu de la France, il arrive à Avignon et il descend dans l'auberge où avait été massacré le maréchal et il demande à occuper la chambre numéro 3. L'aubergiste lui dit « Mais pourquoi ?» Et il explique, il dit « Mais parce que c'est là que mon parrain a été tué. » Et il dit qu'il reconnaît, qu'il voit même plus ou moins l'impact des balles. Enfin bon, il se recueille dans cette chambre où a été massacré son parrain. Voilà, je trouve que c'était une jolie façon de finir l'histoire.
Bon, belle façon. Où peut-on voir encore le nom du maréchal Brune exposé ou visible au grand public, Florence de Beaujus?
Ah ben, d'abord, on a un boulevard à Paris qui n'est pas rien. C'est là où Napoléon III était intelligent. Il a donné le nom des maréchaux de Napoléon sans se demander qui avait été plus ou moins aimé de Napoléon. Et puis le nom, évidemment, du maréchal Brune est gravé sur les colonnes de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, tout de même.
Vous écrivez, Florence de Beaujus, dans le chapitre sur la postérité de Brune, je vous cite, « Alors pourquoi ce discrédit persistant, trop républicain pour Napoléon, trop bonapartiste pour les royalistes, peut-être surtout pas assez courtisan ? » Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette explication ?
Oui, pas assez. Enfin, il a été courtisan, c'est-à-dire qu'il rêvait. Et finalement, il a aimé Napoléon, il rêvait de servir à ses côtés. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il a fait des erreurs probablement. Il n'était pas à ses côtés. Il n'a pas été le fidèle en Égypte, mais ça, il n'y était pour rien. Il n'a pas aimé la montée vers l'Empire. Donc Bonaparte s'en est aperçu et ça ne lui a pas plu. Il n'a pas été assez servile, si vous voulez. Ça, c'est sûr. Mais c'est le grand tort qu'on peut lui imputer.
Est-ce qu'il n'a pas payé, parce qu'on voit bien que la réputation parfois de légèreté avec les finances publiques, pour le dire comme ça, ou de prévarication, semble au moins fondée sur des rumeurs persistantes dans divers endroits où il passe, pour le dire comme ça. D'une autre manière, certains autres grands serviteurs de l'Empire, on pense à Bernadotte par exemple, n'ont pas été ennuyés. Pas trop ennuyé par l'empereur.
Masséna.
Est-ce que finalement, il ne paye pas pour les plus célèbres ou plus brillants que lui, qui eux sont excusés, et Brune peut-être un peu moins flamboyant, souffre de cette damnation mémoriae pour le restant de son existence.
Oui, mais Bernadotte est devenu roi de Suède, vous comprenez, donc il a eu un autre destin. Si Bernadotte n'avait pas été le beau-frère de Joseph Bonaparte. Donc, à ce titre-là, plus ou moins protégé de Napoléon, parce que Napoléon ne voulait pas d'histoire avec la belle famille de Joseph. Et puis Bernadotte, surtout, est devenu roi de Suède, donc il était devenu intouchable. Masséna, ben c'était l'enfant chéri de la victoire. Masséna est tout de même un héros, si vous voulez, des victoires légendaires de Napoléon. Et puis, comme je vous l'ai dit, Brune n'a pas écrit de mémoire. Donc, il n'a pas eu le temps de se justifier. Et puis, il n'a pas eu d'enfant. Donc, personne n'a pu le défendre. Personne n'a pu défendre sa mémoire après sa mort.
Un immense merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Florence de Beaudoux, c'est toujours un plaisir de vous avoir au micro de Radio Courtoisie. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Guillaume Brune, un destin tragique aux éditions Memoring.
Merci beaucoup, Charles.
Quant à moi, je remercie Benoît à la technique et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre journal de débat.
Venez d'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 12 février 2026 et diffusée pour la première fois mercredi 18 février 2026 de 21h30 à 23h, réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.